Depuis la publication de l'apparition du livre en 1958, sous la double signature de Lucien Febvre, décédé 2 ans auparavant, et d'Henri-Jean Martin, on peut dire que Henri-Jean Martin a fait école, dans tous les sens du terme. Il a véritablement créé une école d'histoire du livre à la française, qui a connu un grand renom international. Il a aussi été un formateur. Il a été tout à la fois bibliothécaire, chercheur, professeur et passeur. J'ai dit tout à la fois et également tour à tour. Vous l'avez déjà compris, pour ceux qui ne l'ont pas connu, il avait un caractère bien trempé, qui ne laissait pas indifférent ses auditeurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a des inconditionnels pour, des inconditionnels contre. Et je voudrais insister sur sur un des aspects qui le caractérise pour moi, le fait que durant une trentaine d'années, il a peu ou prou formé tous les responsables de bibliothèques français. C'est ce qu'il rapporte dans un des 11 chapitres des Métamorphoses du livre, ce livre d'entretien avec Christian Jacob et Jean-Marc Châtelain. C'est ce dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Ainsi qu'il le dit dans l'ouvrage que je viens de citer, il rappelle, ce que j'ignorais totalement, que sa première expérience d'enseignant a été en 1954, avant même la publication de l'apparition du livre, en organisant une année préparatoire au concours d'entrée à l'école des Chartes, qui est venue concurrencer les classes préparatoires traditionnelles du lycée Henri IV. Et les concurrencer avec un certain succès. Je ne sais pas combien de temps a duré l'expérience. Ça a en tout cas été ses premières armes d'enseignant. Il a ensuite été directeur d'études cumulant à l'école pratique des hautes études, 4e section, sciences historiques et philologiques, de 1963 à 1993, 30 ans. Professeur à l'ENSB, l'École nationale supérieure de bibliothécaires, dès son ouverture en 1964. Professeur à l'École des Chartes, titulaire de la chaire de bibliographie et d'histoire du livre, de 1970 à 1993. L'ENSB, l'École des Chartes, j'ajoute l'école pratique des hautes études, mais ce sont les lieux de formation des bibliothécaires français de cette époque-là. Donc il a vu passer, il a formé une génération entière de conservateurs de bibliothèques et d'archivistes, puisque un certain nombre d'archivistes ont également eu à suivre ou à subir, selon les cas, ses enseignements d'histoire du livre. Certains en ont gardé un souvenir ému, d'autres un souvenir beaucoup plus mitigé, qui ne manque pas de susciter des réflexions parfois un peu acerbes. Gilles Eboli a déjà rappelé quelques-uns des traits de Martin enseignant. À la vérité, il n'a jamais véritablement été un pédagogue. On ne peut pas dire qu'il était pédagogue, ni orateur. Il était souvent accroché à son papier, qu'il lisait, marchant de long en large, faisant des digressions. Il était, d'un naturel, toujours inquiet avant une communication. Je l'ai souvent vu alors qu'il connaissait parfaitement la question, s'isoler dans un coin pour repasser son texte. À cela s'ajoutait le tempérament provocateur et anticonformiste qu'on lui connaît et qui a souvent pu déplaire et qui lui a parfois joué des tours. Comme je vous l'ai dit, il a pourtant fondé une véritable école et il a influé sur la vie et sur la carrière de nombre de ses élèves. Chronologiquement, il est donc élu à l'école pratique des hautes études en 1963. Sur une chaire d'histoire et de civilisation du livre qui est créée de toutes pièces. Il est encore conservateur à Lyon et il ne veut pas abandonner, c'est un poste à temps plein, il ne veut pas abandonner la direction de la bibliothèque de Lyon, donc il fait transformer ce poste en poste de cumulant. Il a raconté comment il avait été pris dans la querelle entre les différentes sections de l'école pratique des hautes études. Il a été un élève et un collaborateur de Lucien Febvre, qui a été le créateur de la sixième section de l'école pratique des hautes études, devenue aujourd'hui l'EHESS. Et la sixième section est née par scission de la quatrième section. Sciences historiques et philologiques, très traditionnelles, sinon traditionnalistes. Il y a donc toujours eu, entre les deux maisons, une acrimonie pour ceux qu'on appelait les gens de la maison d'en face. Élève de Lucien Febvre, il est donc en but à l'hostilité de la quatrième section. Mais élève de Lucien Febvre, il est aussi en but à l'hostilité des successeurs, que sont Labrousse et Braudel, qui font les carrières, les nominations. Il est chartiste. Donc, il incarne, qu'il le veuille ou non, la tradition dans sa pire acception. Donc, il est infréquentable. De l'autre côté, il est février, donc il est infréquentable. Bien. Il est donc élu grâce à Michel Fleury, hein, camarade de l'école des Chartes, qui est à l'époque directeur de la quatrième section. Et il va tenir tous les lundis à 16h, durant 30 ans, un séminaire, avant d'y être remplacé par un de ses élèves, Frédéric Barbier. C'est là que moi je l'ai rencontré et que j'ai été son élève. J'y reviendrai plus longuement un peu plus tard. Il est aussi professeur à l'ENSB, l'École nationale supérieure de bibliothécaires, créée par un décret du 12 juillet 1963, mais qui n'ouvre ses portes qu'à la rentrée 64 au 2 Square Louvois, à côté de la Bibliothèque nationale. Henri Jean Martin y donne des cours dès la création, succédant à Robert Brun, qui faisait le cours d'histoire du livre dans la formation précédente, qui était la préparation du DTB, le diplôme technique de bibliothécaire. Ce DTB, Henri Jean Martin l'avait quelquefois un peu secondé, mais c'est Brun qui en était le titulaire. Ce DTB se préparait à l'école des Chartes, et il était préparé par des étudiants titulaires d'une licence qui n'étaient pas élèves de l'école des Chartes. Donc il y avait là, si vous voulez, l'école des Chartes abritait cette formation, mais les élèves qui réussissaient le DTB n'étaient pas pour autant anciens élèves de l'école des Chartes. Donc la création de l'ENSB aboutit à la fin de cette pratique et elle va donner la naissance au DSB, diplôme supérieur de bibliothécaire, qui est l'ancêtre direct du DCB actuel, diplôme de conservateur de bibliothèque. En 1964, le programme d'histoire du livre couvrait quelque chose comme 56 heures. Martin rapporte dans les métamorphoses du livre qu'il quittait Lyon le dimanche soir pour donner 4 heures de cours à Paris le lundi, à l'ENSB, puis aux hautes études, qu'il reprenait le train le soir pour rentrer à Lyon à minuit, de façon à être présent à l'ouverture de la bibliothèque le mardi matin. Il ajoute qu'il travaillait le samedi pour compenser son absence du lundi. Il a tenu ce rythme-là pendant 8 ans avant de faire une dépression. On le comprend. Il faut se souvenir qu'il n'y avait pas de TGV à l'époque et que le trajet ne se faisait pas en 2 heures. La décision de transfert de l'ENSB à Lyon, prise en 1971, va l'obliger ensuite à faire le voyage en sens inverse. À partir de la rentrée 1974, date d'ouverture de l'école lyonnaise. Puisque, entre-temps, il avait été nommé professeur à l'école des Chartes, et au moment où il est nommé professeur à l'école des Chartes, il a décliné la proposition qu'on lui a faite de prendre la direction de l'ENSB en remplacement de sa première directrice, Paul Salvant. Parti pour l'école des Chartes, il s'était installé à Cesson, en Seine-et-Marne, ce qui n'est pas le cœur de Paris, pour les comprendre les trajets. Ça ne devait pas être très facile d'aller prendre le train pour faire les allers-retours à Lyon régulièrement. De son enseignement à l'ENSB témoignent 3 volumes d'un cours, le livre et la civilisation écrite, publié entre 1968 et 1970. J'ai regardé hier soir sur le catalogue de la bibliothèque de l'ENSIB, et sur les 3, il n'y a qu'un volume conservé. Je suppose que les 2 autres ont dû être barbotés. J'espère qu'ils ont fait les délices de leur emprunteur indélicat. En tout cas, on a là le texte de ce que Martin pouvait bien enseigner dans ces années-là. Il y a également noué des amitiés avec d'anciens élèves de l'ENSB, j'en citerai 2, Pierre Petit-Mangin, Archicube, qui devient bibliothécaire de l'École normale supérieure, et Claude Joly, que j'ai connu comme chef du service des bibliothèques publiques à la direction du livre et de la lecture, avant qu'il ne prenne un congé sabbatique pour se faire l'artisan de l'histoire des bibliothèques françaises, puis qu'il ne parte diriger la bibliothèque de la Sorbonne, devenir ensuite sous-directeur des bibliothèques au ministère de l'Éducation nationale et occuper d'autres postes de sous-direction dans ce ministère par la suite. Donc, après le transfert de l'ENSB à Lyon, Henri Jean Martin y est revenu régulièrement donner des cours, mais il était quand même secondé sur place par 2 conservateurs enseignants, Jeanne-Marie Duroux et Marianne Merland. Il a souligné la difficulté d'enseigner à l'ENSB, à un public très hétérogène, différent de celui des chartistes, avec des gens qui avaient des formations diverses, qui étaient souvent très diplômés, et aussi avec la présence de très nombreux étudiants, en particulier d'étudiants africains, pour lesquels les questions d'histoire du livre étaient véritablement très exotiques. Ça a donc été pour lui toujours un challenge, mais il a toujours été très très attaché à l'ENSB et, comme je le dirai tout à l'heure, très attaché. Il a beaucoup œuvré pour sa transformation en ENSIB et en établissement universitaire. 1970, il est élu à la chaire de bibliographie et d'histoire du livre à l'École nationale des Chartes. Il va là attirer et convertir aux bibliothèques un grand nombre d'élèves. Certains sont dans cette salle et parleraient sans doute beaucoup mieux que moi de l'enseignement qu'ils y ont reçu. Cet enseignement, on en a des traces là aussi avec des polycopiés à couverture bleue, que moi je garde précieusement parce que je les ai eus. Donc en première et en deuxième année, il donne un cours de bibliographie et un cours sur les techniques de l'histoire du livre et de la gravure. En troisième année, il développe un cours sur l'histoire des bibliothèques et des fonds patrimoniaux. Puis la quatrième année est davantage l'année professionnelle qui est constituée d'une part de cours de préparation au métier et d'autre part d'un stage long dans une bibliothèque de province. Une des caractéristiques d'Henri-Jean Martin, c'est d'utiliser beaucoup les diapositives, ce qui est quelque chose qui nous semble aller de soi aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément très courant à l'époque. Et il y a encore à l'ENSIB une collection importante de diapositives qui ont servi à ses cours dans la maison et qui malheureusement ont subi les affres du temps et sont pour beaucoup devenues violettes ou assez peu lisibles. Il dit avoir dirigé une centaine de thèses d'école des chartes. Toujours en tandem avec un universitaire, et cet universitaire a souvent été Daniel Roche, dont je reparlerai. J'ai voulu, pour cette communication, recenser ces thèses. Je dois dire que je m'y suis mal pris. Je pensais que j'allais trouver ça en ligne. Malheureusement, il n'y a que les positions que des thèses récentes en ligne. Et donc je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, mais je pense que l'école des chartes a toute l'information disponible et pourrait me la livrer en l'espace de quelques clics. Ce serait intéressant de voir quelle thèse, combien de thèses et quelle thèse il a dirigé à l'école des chartes. En tout cas, il a été un des rares liens entre les deux formations de conservateurs, concurrentes et antagonistes. Les chartistes n'aimaient pas forcément les conservateurs et NSB qui le leur rendaient bien. Il a milité et œuvré pour le rapprochement des deux écoles et pour la création de l'ENSIB. Voilà ce qu'il disait dans un article sur les chartistes et les bibliothèques publié dans le Bulletin des bibliothèques de France. C'est un article qui a été fait pour le 150e anniversaire de l'école des chartes. C'est donc très peu de temps après qu'il ait pris ses fonctions. Qu'il soit permis à l'auteur de cet article, qui fit partie durant plus de 20 ans du corps scientifique des bibliothèques, qui en franchit tous les grades, que sa carrière conduisit dans des bibliothèques de vocations différentes avant qu'il ne devienne professeur à l'école des chartes et qui enseigne à l'école nationale supérieure de bibliothécaires depuis la création de celle-ci, d'exprimer à ce propos une opinion personnelle sur des problèmes souvent évoqués avec des collègues bibliothécaires. Il est en fait factice d'opposer une certaine forme d'activité scientifique à l'exercice de la profession de bibliothécaire sur le terrain. Le bibliothécaire chargé de conserver un fonds ancien doit évidemment savoir comment on travaille sur un tel fonds pour mieux guider ses lecteurs, de même que le bibliothécaire de lecture publique se trouve tout naturellement amené, en certaines occasions, à diriger les enquêtes sur le public auquel il s'adresse. De même encore, les progrès des techniques documentaires ou bibliothéconomiques exigent des recherches variées auxquelles le bibliothécaire ne pourront jamais rester étrangers. Cette dualité inhérente à la profession n'ira pas sans imposer au cours d'une carrière une vigilance perpétuelle et des recyclages fréquents. Mais cela n'est-il pas aujourd'hui le cas d'à peu près tous les métiers? Le bibliothécaire venu de l'école des chartes fournira dans tout cela demain comme hier, son apport original auprès de son camarade issu de l'École nationale supérieure de bibliothécaires. Il se heurtera au cours de sa carrière aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes de reconversion, et la diversité de la formation de départ sera pour l'un comme pour l'autre une source d'enrichissement. On l'a souligné tout à l'heure, un certain nombre de chartistes se sont révélés être des missionnaires et des apôtres de la lecture publique. Un certain nombre d'élèves issus de l'ENSB se sont révélés être de très grands spécialistes des fonds anciens. Et si vous me permettrez, j'ajouterai à tout cela une confidence qu'il me faisait au moment de la création de l'ENSIB, en se félicitant que les chartistes aillent faire leur formation professionnelle à l'ENSIB. Je cite de mémoire, « User ses fonds de culotte sur les mêmes bancs, ça crée des liens. » Ça, c'est Martin. Le troisième lieu, et le premier chronologiquement d'enseignement, c'est le séminaire de l'École pratique des hautes études, quatrième section. Un séminaire intitulé « Histoire et civilisation du livre ». C'est le premier poste d'enseignement d'Henri-Jean Martin, auquel il est nommé en 1963. Il est encore en train de travailler à sa thèse d'État, « Livre, pouvoir et société à Paris au XVIIe siècle », qui sera soutenue en 1969. Ce séminaire a donné son nom à une collection de l'École pratique des hautes études à couverture verte publiée chez Drose. Il a également donné son nom à la revue que ses élèves ont lancée en 2005, « Histoire et civilisation du livre » de Point Revue Internationale. C'est là que le jeune cagneux que j'étais à l'époque a rencontré Henri-Jean Martin et a été son élève de 1976 à 1986. C'est de cet enseignement-là que je puis parler, bien davantage que de ceux de l'ENSB que je n'ai pas connu, ou de l'École des Chartes dont je n'ai connu que le stage de quatrième année. Le lundi à 16h, à la Sorbonne, escalier E. Une salle toute en longueur, dont les murs d'au moins 4 mètres de hauteur étaient couverts de livres. Une grande table autour de laquelle on s'asseyait. Un tableau noir. Ou peut-être était-il vert, je ne sais plus. On ne pourra pas les visiter ni vérifier, puisque tous ces lieux-là ont disparu. Une fenêtre donnant sur la rue Saint-Jacques. Sur la porte, un cadre métallique dans lequel l'appariteur glissait un carton portant le nom du directeur d'études qui allait officier, Monsieur Martin. Il faut dire qu'il y avait peu de salles. Il y avait 3 salles à l'École pratique des hautes études et que les cours s'y suivaient. Au cours d'Égyptien succédait le cours de sanskrit et au cours de sanskrit succédait peut-être le cours d'histoire du livre. Je dois dire aussi mon émotion en 2004 lorsque j'y ai vu afficher Monsieur Vary. C'est sûr que ça m'a fait un choc. Un cahier d'écolier que les auditeurs signaient en signe d'attestation de présence et sur lequel Martin rajoutait des signatures fantaisistes qu'il montrait ensuite à ses visiteurs étrangers, toujours un peu estomaqués, en leur disant « Voyez, Georges Marchais, viens à mon séminaire. » À cette description, on peut ajouter ce que Martin dit de ce séminaire. Une question de Jean-Marc Châtelain. Envisagiez-vous votre séminaire comme le laboratoire d'essai des livres en cours ? Il répond : pas à l'origine, si ce n'est en ce qui concerne ma thèse. Mon séminaire n'était pas à l'origine un séminaire de réflexion générale, mais un séminaire plus technique, dont le propos est resté toujours centré sur l'histoire du livre imprimé. C'était dans ce domaine précis que les auditeurs entendaient bénéficier de mes propres compétences ainsi que de celles des différents participants. Plus tard, il y eut parfois une disjonction entre la réflexion que j'entendais développer dans les livres que j'avais en projet ou en chantier et le contenu immédiat de mon séminaire. J'y ai pour ma part entendu parler de la Bibliothèque Bleue, du libraire Nicolas de Grenoble, des chœurs du Père Monnoir, du livre au chant, de la Bibliothèque universelle des romans et de bien d'autres sujets. Le compte-rendu du séminaire était publié dans l'annuaire de l'École pratique des hautes études. J'en ai mis un peu par... Je suis tombé sur celui-là par hasard sur Google hier après-midi. J'ai eu la main heureuse puisque on y parle de certaines personnes qui se trouvent ici, à commencer par votre serviteur et parmi les auditeurs, il y a un certain G. Eboli dont je ne sais pas ce qu'il a pu devenir. École des Chartes. Henri Jean-Martin, il y avait une maître assistante, Anne Sauvy Wilkinson, la fille d'Alfred Sauvy. Il y avait des chargés de conférences. La première a été... Alors là, j'ai peut-être un problème dans les diapos. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un problème dans les diapos. Ils ne sont pas dans le bon ordre. Ah, pourquoi il repart en... Pourquoi il... Ça ira mieux comme ça. Non, mais alors, ça, voilà. Bon, je ne sais pas, ça s'est décalé. Donc, chargé de conférence, Jeanne Vérin-Forer, elle aussi archiviste paléographe, qui était la directrice de la réserve de la Bibliothèque nationale et qui a été la première... a donné, dans le cadre de cette conférence, un enseignement de bibliographie matérielle. C'est là que moi j'ai entendu parler pour la première fois de la bibliographie matérielle anglo-saxon. Et cet enseignement s'appuyait sur ce document, ce tapuscrit que vous voyez à gauche, de 1971, qui est un cours de l'ENSB. C'est le premier manuel français de bibliographie matérielle, très artisanal. Le deuxième chargé de conférence. Alors, ça va. Le deuxième chargé de conférence, c'était Daniel Roche, ancien caïman à Saint-Cloud, qui était à l'époque maître de conférence à Paris 7. Après avoir soutenu sa thèse sur les académies provinciales. Alors, un maître de conférence de l'époque n'est pas un maître de conférence d'aujourd'hui. Un maître de conférence d'aujourd'hui est un maître assistant à l'époque. Un maître de conférence est quelqu'un qui a déjà soutenu sa thèse d'État et qui attend un poste professoral. Mais qui était encore inconnu et sans élève. Il devait devenir professeur à Paris en 1978, professeur au Collège de France en 1998. On y voyait aussi Roger Chartier, que Martin avait connu à Lyon, qui était à l'époque jeune maître assistant. Il venait des conservateurs et des bibliothécaires de l'ABN, Albert Labat, Ursula Bauermeister, Brigitte Moreau, des conservateurs de Sainte-Geneviève, je pense à Jacqueline Linet. Deux jeunes conservateurs chartistes ou non chartistes, Annie Charon, Denis Palier, Dominique Coq, François Dupuis-Grenet des Roussis, Françoise Bléchet, Geneviève Guiminot, Daniel Renoux. Il y avait aussi Denise Gide qui travaillait sur les reliures estampées à froid, et puis une dame très âgée, Madame Régnier, qui descendait d'imprimeurs de langres qui venaient très régulièrement chaque semaine. Et puis de jeunes chartistes qui préparaient leur thèse. Avec le transfert à Lyon, les élèves de l'ENSB avaient disparu, remplacés par de jeunes normaliens. Je pense à Isabelle Pantin, aujourd'hui professeure à l'École normale supérieure, à Alain-Marie Bassi, qui travaillait sur l'illustration des fables de La Fontaine et qui a occupé ensuite un poste d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale. Et puis des universitaires un peu atypiques. Alors c'est là que je vais encore avoir des problèmes. Voilà. Comme Roger Laufer, lui aussi ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'anglais, professeur de littérature française, puis professeur de sciences de l'information et de la communication à Paris 8, qui avait été le rédacteur en chef de l'Australian Journal of French Studies quand il était jeune en poste en Australie, qui est l'un des introducteurs de la bibliographie matérielle en France, avoir publié le premier manuel véritablement universitaire. C'est la moitié de cette introduction à la textologie publiée en 1972, et qui est aussi l'auteur d'une histoire de la machine à écrire, dont on a entendu parler au séminaire des hautes études. Il y avait enfin des universitaires étrangers qui venaient et revenaient au gré de leurs années sabbatiques. Je pense à Wallace Kirsop, un Australien qui a été successeur de Lowfer à l'Australian Journal of French Studies, professeur à Monash University, et qui est lui aussi l'auteur d'une petite plaquette qui a essayé de convertir les Français à la bibliographie matérielle sans beaucoup de succès. Robert Darnton, professeur à Princeton, et qui a terminé sa carrière comme professeur et directeur des bibliothèques d'Harvard. Quand j'ai retrouvé Robert Darnton bien des années après, comme maître de conférence à l'ENSIB, je me suis présenté à lui comme élève d'Henri-Jean Martin et il m'a répondu, je cite, moi aussi, ce qui n'est pas peu dire. Je pense à Raymond Burn, professeur à l'université d'Eugene en Oregon, qui a donné des cours au Collège de France et dont un livre sur la censure royale a été publié il y a quelques années. Je pense à des collègues anglais, Giles Barber, qui était le bibliothécaire de la Taylor Institution d'Oxford, qui a une très belle collection de livres français du XVIIIe siècle. Je pense à Nicholas Barker, qui a fait une carrière de conservateur à la British Library et qui est depuis 1965 le rédacteur en chef du Book Collector, l'équivalent anglais du bulletin du bibliophile. Tout cela faisait un mélange extrêmement détonnant, stimulant, qui a trouvé d'une certaine façon sa conclusion dans la publication des quatre volumes de l'histoire de l'édition française, puisque ont été mis à profit pour la rédaction de ces volumes des thèses d'école des chartes, des mémoires des ENSB, des articles et publications d'anciens élèves et auditeurs, et deux colloques qui n'ont jamais été publiés, tenu en 79 et 80 à Paris sur les espaces du livre, la géographie de la librairie parisienne et puis les espaces du livre, ce qu'on appellerait en anglais le layout, la mise en livre ou la mise en texte, et de très très rares thèses. Ce qui est assez surprenant, c'est que Henri-Jean Martin n'a, si j'ai bien compté, dirigé que 6 thèses universitaires. Il y a celle de Paul-Marie Greenwald sur les bibliothèques privées parisiennes du XVIIIe siècle, en 1980 à la Sorbonne, à Paris 1. Il y a la mienne sur les confiscations révolutionnaires en Normandie, à Paris 1 en 1986. Elle est mal attribuée par le. J'ai jamais pu réussir à faire changer ça. Henri-Jean Martin, personne ne connaissait à Paris 1. Donc on m'a collé au fichier des thèses comme directeur de thèse un autre Martin qui était médiéviste. Jamais pu faire corriger. Jacques Breton, thèse sur les recherches bibliologiques sur l'édition française contemporaine, à Paris 7 en 88. Jean-Dominique Melot, dynamisme provincial et centralisme parisien, l'édition rouennaise et ses marchés, vers 1600, vers 1730, Paris 1, 1992. Corinne Bouquin, recherche sur l'imprimerie lithographique à Paris, l'imprimerie Le Mercier, 1803-1901, à Paris 1, 1993. Et Michel Marion, collection et collectionneur de livres au XVIIIe siècle, à Paris 4, en 1994. 14. Cet enseignement avait aussi un rayonnement international. En témoignent les universitaires anglo-saxons en année sabbatique qui fréquentaient le séminaire d'école pratique des hautes études et que je viens de signaler. En témoignent également les liens avec l'Allemagne et le directeur de la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, Paul Rabe. La bibliothèque de Wolfenbüttel était pour Martin et pour nous à la fois une bibliothèque, un centre de recherche et un centre innovateur en matière de bibliothéconomie, puisqu'on y avait remplacé les fiches cartonnées par des photographies des pages de titres des livres. Martin a aussi enseigné à l'étranger, c'est moins connu. J'en donnerai simplement quelques exemples. Il a donné les James Schuller Lectures à Johns Hopkins en 1993 à Baltimore. Il a alors, où est passé ciel catastrophe? Il a été Visiting Fellow à All Souls, à Oxford, en 1993. Et j'avouerai avoir, moi aussi, eu un sentiment de fierté de lui succéder 20 ans plus tard. Il a donné les Lyell Lectures à Oxford en 1994-95, son exposé a été publié et a donné son livre sur la naissance du livre moderne. C'est les Lyell Lectures. Parmi les auditeurs du séminaire, les auditeurs étrangers du séminaire aussi, on pourrait signaler la présence helvétique. Je pense à Jacques Richner, conservateur, puis directeur de la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Donc la fin de sa carrière a beaucoup été marquée par des interventions internationales, où il a là aussi fait passer son savoir à la fois à des universitaires, mais aussi à des bibliothécaires, c'est le cas à Oxford. En tout état de cause, tout au long de ces différents enseignements, dans ces trois lieux qui étaient l'École pratique des hautes études, l'ENSB et l'École des chartes, il a toujours porté une très grande attention à chacun de ses élèves, manifestant un certain paternalisme. En témoigne l'invitation à déjeuner à son domicile des jeunes chartistes bibliothécaires de quatrième année, au moment où ils avaient terminé leur formation professionnelle. En témoigne un souci des affectations des jeunes chartistes en fonction de leur centre d'intérêt, du sujet de leur thèse et de leurs travaux. Je l'ai entendu se lamenter de n'avoir pas pu trouver à placer dans un fonds de bibliothèque une chartiste qui avait fait une très belle thèse qui a été publiée et qui est partie vers les archives. Elle se reconnaîtra. Et souci également et attention pour les élèves déjà lancés dans la vie professionnelle à l'occasion des mutations, des affectations, pour lesquelles il était parfois consulté. Je le dis pour les étudiants qui sont dans la salle, vous ne vous en doutez sans doute pas, mais quand on affecte les gens ou quand il y a parfois des mutations, les recruteurs prennent des renseignements auprès des anciens professeurs. À bon entendeur, salut. Et puis ce souci, il l'a eu aussi pour des... Bon, c'était peut-être l'école des Chartres qui voulait ça, la grande école, mais il l'a eu aussi pour des élèves qui n'étaient pas chartistes. On peut citer Paul-Marie Greenwald, auteur de cette thèse sur Besançon, qui l'a fait nommer bibliothécaire à l'Imprimerie nationale et responsable du cabinet des Poinçons, et qui, l'Imprimerie nationale ayant s'étant peu ou prou sabordée, est aujourd'hui responsable d'une bibliothèque au ministère de l'Économie et des Finances. On peut parler de mon cas personnel. Hein. Je suis arrivé au séminaire d'Henri Jean Martin un peu par hasard, et je peux dire que cette rencontre a décidé de ma carrière et d'une certaine manière de ma vie, puisque j'y suis arrivé alors que je venais après 2 années de Cagne en province, je suis allé cuber à Paris justement pour aller suivre des cours dans ces institutions qui étaient l'école pratique des hautes études et lieux équivalents. J'avais à l'époque un très grand intérêt pour la civilisation celtique et les tombes à char du Hallstatt final. C'est toujours une de mes marottes. Malheureusement, les séminaires correspondants n'allaient pas avec mon emploi du temps. En revanche, sur l'affiche, j'ai vu Henri Jean Martin. Henri Jean Martin, je connaissais parce que j'avais lu L'apparition des livres. Je suis donc allé au séminaire d'Henri Jean Martin et ça a décidé de ma vie. De la même manière qu'a décidé de ma vie le fait que, jeune agrégé en poste dans un lycée de Normandie, je revienne de temps en temps à son séminaire et qu'un beau jour il me dise on cherche quelqu'un pour la direction du livre, on ne peut pas mettre un chartiste. Si vous voulez, il y a un poste et il est pour vous. Réfléchissez, mais réfléchissez vite. Texto. Voilà comment j'ai bifurqué vers la direction du livre, soutenu ma thèse dans l'intervalle et que j'ai fini à l'ENSIB. Il n'a fallu pas moins de 4 successeurs ou 5 successeurs pour assumer les enseignements qu'il donnait. Frédéric Barbier à l'école pratique des hautes études, Annie Charon et Elisabeth Parinet aux Chartres. Les deux enseignants de l'ENSIB. Je voudrais, un peu pour conclure, vous parler de l'hommage que lui ont rendu ses élèves. D'abord par la publication de Mélange, 58 contributions, essentiellement celles d'élèves, 817 pages. Il avait dit à Martin, si vous faites des mélanges, je vous les envoie à travers la figure. Et puis après, il s'est inquiété en trouvant qu'on n'allait pas bien vite pour les concocter. Donc ils sont parus en 1997, ça a donné lieu à une remise solennelle en Sorbonne, dont je vais vous passer quelques-unes des diapositives. Dans les grands salons, voilà. Frédéric Barbier remet le volume au maître, qui jette un œil quand même. Et voilà, Martin orateur. Voilà, Annie Charon, qui lui a succédé aux Chartes, Anne Sauvy, son assistante à l'école pratique des hautes études, Madame Martin, qui a joué un très très grand rôle à ses côtés. Le voilà là avec Valérie Tenière. Là on voit Claude Joly et Frédéric Barbier en partie cachés. Et puis à l'occasion du congrès Sharp organisé par l'Institut d'Histoire du Livre à Lyon en 2004, la ville de Lyon lui a remis solennellement sa médaille. Donc dans les salons de l'hôtel de ville, avec l'adjoint au maire de l'époque, on voit Patrick Bazin, directeur de la bibliothèque, François Dupuis-Grenet-Desroussy, directeur de l'ENSIB, et la présidente de Sharp. Voilà la remise de la médaille. Vous me permettrez de dire que il y a eu une relation quasi filiale de ses disciples les plus proches. Je pense à Frédéric Barbier, à Annie Charron, Jean-Dominique Melot, Jean-Marc Châtelain qui a été sans doute le dernier, et moi-même. Voici deux disciples côte à côte qui ont continué à travailler côte à côte. Et pour la circonstance, j'ai sorti deux de mes trésors. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent se targuer d'avoir l'histoire de l'édition française avec un envoi autographe. Et voilà Martin. Je ne traduis pas. C'est sur cette photographie que je conclurai en lui rendant la parole avec cet extrait de ce chapitre des Métamorphoses du livre. Quoi qu'il en aille, si j'ai été heureux à la bibliothèque de Lyon, la sympathie des élèves m'est allée droit au cœur quand je suis devenu professeur et je garde de tous un souvenir attendri. Je ne pense pas que ce soit le cas de tous ces élèves, c'est en tout cas le cas de certains d'entre eux. Merci.